7h32 minutes, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89.1 où vous venez de rejoindre l'antenne de CKRL 89.1 et où on vous en remercie. Et bien entendu, moi je suis rejoint, j'entends Raymond Poirier, je suis rejoint par mon collègue François G. Couillard, bonjour!
Salut Raymond!
Ça va bien?
Ah, terriblement bien.
Par cette journée printanière ce
matin. Te sens-tu prêt?
Oui, en fait, pas nécessairement comme d'autres l'ont été en 2003, mais je suis prêt à ma façon.
C'est toujours risqué de dire ça, je suis prêt, tu sais, maintenant.
Oui, effectivement.
Ce jour fatidique de 2003.
Mais... C'est comme une formule qui a été tuée. Voilà, tout simplement. Alors, ce matin, on parle donc de Québec solidaire, quatrième formation à nous rendre visite en cette semaine électorale. Et pour en parler avec nous, je vais faire un tour de table. Premièrement, candidat dans Tachereau, ancien président du syndicat de la fonction publique du Québec et membre fondateur de l'Association québécoise pour un contrat mondial de l'eau, Serge Roy, bonjour.
Bien le bonjour.
Ensuite... candidate dans Charlebourg, militante à Rose-du-Nord, membre également du groupe Forêt Ivoire qui défend la protection des forêts urbaines de Québec, Martine Sans-Façon. Bonjour.
Bonjour.
Et enfin, candidate dans Jean Lesage, agent de recherche au Centre de recherche de Montréal sur les inégalités, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté, ancien porte-parole du Front commun des personnes assistées sociales du Québec de 1996 à 2003, Jean-Yves Desgagnés. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on va commencer. Il faut dire actuellement, on regarde les sondages, Québec solidaire qui tourne à peu près autour de 5% des intentions de vote. Vos chefs, Françoise David et Amir Kadir, ont dit, regardez, nous, on veut entrer à l'Assemblée nationale, avoir 1, 2, 3, 5 députés solidaires qui seraient présents. Donc, au bout du compte, de votre côté, si on met les choses au clair, vous faites la campagne pas dans l'espoir de gouverner ou de former l'opposition. Vous le faites d'abord et avant tout pour les idées.
Bien, écoutez, c'est évident que la première chose qu'il faut avoir avant de se lancer dans la politique, c'est d'avoir des idées, d'avoir des choses différentes à proposer. Alors, il y a peut-être une couple de partis qui devraient se retirer parce que ça tourne assez mal sur ce plan-là. Je vous dirais qu'il y a des partis comme le Parti libéral, le Parti québécois et l'ADQ qui rebrassent à peu près les mêmes mausus d'affaires depuis à peu près 30 ans. Moins pour la DQ, je le concède, mais c'est la même trace. Alors, les idées qu'on a, bien sûr, on estime qu'il faut les porter, et il faut les porter à l'Assemblée nationale. Ça suffit pas, à notre sens, si on veut faire vraiment des changements dans la société. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la région de Québec qui souhaitent des changements profonds, qui de temps en temps votent ou votent pas. Hein. Beaucoup de monde ne vote pas dans la région de Québec, comme dans l'ensemble du Québec. Et ça affaiblit beaucoup la démocratie. Alors, si on réussit à faire élire des députés à l'Assemblée nationale et qu'on obtient un vote significatif pour l'ensemble du Québec, mais aussi dans notre région à nous, parce qu'on n'est pas loin de l'unanimité malsaine dans cette région-là, je vous dirais. Je pense qu'on va peut-être assister à un renouveau politique, à une reprise du goût de la démocratie, parce que c'est fondamental si on laisse le pouvoir entre les mains de quelques-uns, quelques-unes, surtout quelques-uns, je dirais, je pense bien qu'on va se préparer un avenir pas trop jojo.
Et ce qui fait peur, ce qui vous limite peut-être un peu du côté de Québec solidaire, c'est la couverture médiatique. Il faut dire qu'elle ne me semble pas majeure. Dans les grands médias, on parle surtout dans le fond de l'Action démocratique, du Parti québécois, du Parti libéral. Et comme on dit, on fait loin des yeux, loin du cœur. Alors j'imagine que ça affecte aussi la force de votre option. Comment on fait pour combattre ça? Comment on fait pour amener les médias à s'intéresser à ce que vous proposez?
Écoutez, naturellement, nous autres, Québec solidaire, on dénonce cette censure-là. Au niveau de notre démocratie, ça n'a aucun sens actuellement. Moi, je vais vous donner quelque chose de concret dans Charlebourg. Il y avait justement une page complète sur les trois partis, alors que j'avais justement eu une entrevue avec Le Soleil. Puis, on a tout à fait ignoré ma candidature.
Est-ce que vous croyez que c'est volontaire de la part des médias?
Moi, j'accuse Le Soleil de Québec de faire la campagne de l'Action démocratique du Québec. Depuis le début, nous avons, à chaque semaine, Québec solidaire, capitale nationale, a fait des sorties, effectivement, sur la question du patrimoine, sur la question de la santé, sur la question du développement économique. Effectivement, le discours que Québec solidaire porte, c'est pas le discours du maire Labeaume, c'est pas le discours de l'élite bourgeoise de la capitale nationale. Nous, effectivement, l'amphithéâtre, les Olympiques, c'est pas notre priorité. Nous, ce qu'on veut, pour les gens de la population, ce qui est important, c'est de parler de santé, c'est de parler de la lutte à la pauvreté, parler des vraies affaires. Quel parti parle des vraies affaires? On entend parler d'aucun enjeu dans la capitale nationale. Quand on sait qu'il y a, entre les riches et les pauvres, il y a, par exemple, ici dans la capitale, les gens de la Basse-Ville, de Limoilou puis de Vanier, meurent 7 ans, dans le fond, plus tôt que ceux de la Haute-Ville. C'est scandaleux. 2 fois plus de mortalité infantile. Il faut agir contre ça. faut parler des vraies affaires. Malheureusement, on est un peu sur une espèce de high, tu sais, poste de 400e, tu sais. Et là, on cherche un autre gros party, tu sais. Puis là, il faudrait peut-être être d'accord. Non, tout le monde n'est pas d'accord dans la société, tu sais. Québec solidaire est une voix discordante. Et là, sa place, comme disait Foglia, 5 % d'indignation, c'est un minimum dans une société démocratique. Puis on devrait l'entendre, ce 5 % d'indignation-là.
Et ben justement, vous avez parlé de la liste du maire Labeaume. Au niveau régional, on le sait, on l'a vu, notamment dans certains médias, via communiqué également, vous n'avez pas appuyé cette liste-là. Quel regard vous avez porté? Pourquoi vous avez dit, ben monsieur Labeaume, on n'est pas accroché justement par ce que vous demandez?
Ben, je vais commencer. D'abord, on n'a pas dénoncé cette liste-là. La première réaction que nous avons eue, c'est de dire, bon, il y a des choses intéressantes là-dedans, est-ce qu'on pourra en discuter? Et évidemment, on n'a pas eu de réponse à cette invitation-là, malgré que M. Labeaume avait ouvert la porte en disant qu'il était prêt à discuter de sa liste. Nous, ce qu'on a dit, c'est que bon, il y a là-dedans un ordre de priorité que peut-être on pourrait changer, on pourrait modifier, justement pour tenir compte d'un certain nombre d'enjeux sociaux qui sont absolument pas présents dans cette liste-là. C'est sûr que c'est séduisant de dire on va avoir un nouveau Colisée, un nouvel amphithéâtre. C'est séduisant de dire on va faire venir une équipe de la Ligue nationale. Bon, c'est pas nécessairement sa liste, mais ça tourne autour de ce genre d'enjeux-là. C'est intéressant de dire ben, il faut revitaliser d'Estimoville, c'est vrai, et nous aussi, on est bien d'accord avec ça, revitaliser d'Estimoville. Et il faut bien voir pourquoi ça s'est dévitalisé aussi, pourquoi c'est resté dans l'état où c'est à l'heure actuelle. Hein. C'est pas Québec solidaire qui est responsable de ça. Il y a des gens qui sont en place encore aujourd'hui, puis qui ont un petit peu les mêmes politiques. Alors, cette liste-là, nous, on trouvait des choses intéressantes, peut-être plus prioritaires que d'autres. On convient, comme tout le monde, que le 400e, ça a été un succès, ça a donné beaucoup de fierté, ça a apporté beaucoup de stimulation dans à peu près tous les milieux, y compris dans le nôtre. Mais après le 400e, après que les fêtes sont finies, on pense-tu qu'en 2009, on va être encore sur le parti puis que ça va être comme ça jusqu'à la fin des temps? Non, c'est pas ça. Nous, ce qu'on dit, il faut penser à des choses structurantes pour la région. Alors, on est arrivé avec d'autres propositions, telles que un système de transport en commun digne d'une ville comme Québec, digne d'une capitale qui se veut de plus en plus internationale, le tramway, le transport ferroviaire régional, l'écolobus qu'on peut utiliser de bien meilleure manière que seulement dans le quartier touristique. Il y a plein de quartiers à Québec, plein d'arrondissements qui sont mal desservis par le transport en commun. Alors, puis il y a d'autres exemples. Je pense, Martine, tu pourrais en donner, Jean-Yves aussi.
En fait, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la qualité de vie des citoyens et des citoyennes d'abord. Une économie au service des personnes. Puis actuellement, on sait qu'il y a un manque flagrant de logements sociaux dans la capitale nationale. Et nous, c'est important. Et ça, c'est à la base. Et tant et aussi longtemps que la politique ne servira pas les personnes, on passe à côté de la qualité de vie. Puis cette qualité-là est menacée également au niveau de l'environnement. On a mentionné les transports en commun, mais actuellement, on voit une coupe à blanc de nos forêts urbaines. Et moi, j'en suis témoin d'ailleurs à Charlebourg, qui ne sert pas la population, la qualité de l'air est menacée. Et malgré une mobilisation citoyenne, il n'y a pas d'écoute, on dirait, auprès de la population. On a signé à Charlebourg plusieurs pétitions. Au-dessus de 2000 personnes ont signé ces pétitions-là.
Mais pour l'environnement, on va y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, on reste dans le général. Moi, j'avais une question. Donc, au sujet des sondages, hein, on revient là-dessus. C'est important quand même d'en parler. Donc, les derniers sondages montrent que vous êtes à 5 % au même niveau que les Verts. Donc, malgré tous les efforts que vous faites, on vous entend, même si on en a parlé tout à l'heure, peut-être qu'on vous entend pas assez, mais on vous entend quand même au moins 5 fois plus que le Parti vert dans les médias. Est-ce que, alors que le Parti vert, justement, on n'en entend jamais parler, ils ont autant de pourcentage que vous de votes, alors est-ce que vous trouvez ça décevant? Est-ce que vous trouvez ça frustrant?
Ben, c'est pas la question que c'est décevant, c'est une réalité par rapport au sondage. Un sondage, c'est un sondage. Il faut bien voir que nous, on n'a jamais basé nos interventions puis nos activités en fonction des sondages.
Mais comment vous expliquez que le Parti vert fait autant aussi bien que vous?
Bien, je pense que l'explication, elle est toujours du même côté, c'est-à-dire que les gens ont une sensibilité, je dirais naturelle, pour les questions écologiques depuis un certain temps, mais observez que dans les sondages, le Parti vert, il fluctue. Un sondage, il est à 8, un autre sondage, il est à 4, puis ça revient à 5. Québec solidaire, c'est stable, c'est-à-dire que oui, on est parti à 4, mais là, dans les derniers sondages, on est à 5. Bon, écoutez, moi, je pense qu'il n'y a rien de décourageant pour nous là-dedans.
C'est ça.
On sait jusqu'où il faut travailler.
Puis dans le dernier sondage, suite au débat électoral, c'est dans le fond, Québec solidaire avait 5 % et les Verts 3 %. Alors, je pense, que ce qui est la grande différence, effectivement, c'est que les Verts bénéficient un peu de... les gens sont de plus en plus préoccupés d'écologie, d'environnement, et il y a une espèce de label qui existe au plan international. Donc, alors c'est sûr que ça... pour des gens qui cherchent une alternative, donc, Parti vert, ça sonne un peu alternatif, mais il faudrait peut-être que les gens creusent un peu plus. C'est pas toujours, effectivement, c'est pas parce qu'on est vert qu'on est à gauche, là. Je pense que la grande différence à Québec solidaire, c'est que nous, on est effectivement écologistes, mais aussi le Parti de la justice sociale. Alors, dans ce sens-là, je pense que c'est la principale explication, c'est celle-là, c'est le fait qu'effectivement, les Verts bénéficient d'un auréa international, parce qu'il y a eu des Verts élus en Europe. Alors, je pense qu'il y a des retombées qui, ici au Québec, mais ça ne nous décourage pas, parce que dans le fond, nous, quand je vous dis dernier sondage, on a plus que les Verts, on a plus de candidats. Vous savez qu'il y a 122 candidats de Québec solidaire dans l'ensemble du Québec. On est un parti féministe, donc on a la parité homme-femme dans nos candidatures. Donc, là-dessus, moi, je suis convaincu que lors de la prochaine campagne, nous aurons plus de voix que les Verts.
Et en terminant, pour finir un peu le bloc général, avant de se lancer vers les blocs spécifiques, dans le fond, une critique qui revient souvent du côté envers Québec solidaire, qu'on entend beaucoup, c'est dans le fond, c'est un parti d'utopiste, un parti qui n'est pas réaliste, c'est une gang de pelleteux de nuages. Comment vous répondez à ça?
Écoutez, on a des propositions concrètes. On dit aux gens, allez voir notre plateforme, prenez connaissance de nos propositions. On a des choses concrètes. Quand on dit qu'on veut défendre un système de santé publique, puis qu'on dit que les dépenses au niveau des médicaments ont triplé dans les dernières années, puis qu'on veut former Pharma Québec, une société pour justement au niveau de la recherche, puis à se donner les moyens collectifs au niveau de nos médicaments pour sauver 1 milliard. C'est concret, c'est quelque chose de tangible. C'est pas pelleter les nuages. En Nouvelle-Zélande, on a fait la même expérience, le même choix. Alors, on peut faire des choix, c'est pas pelleter les nuages, on a des propositions concrètes. On dit aux gens, prenez connaissance de ces propositions.
Mais, parlons-en, justement, juste un petit mot sur votre plateforme. Justement, j'ai regardé hier votre plateforme par rapport à celle du Parti vert. Le Parti vert propose, par exemple, des élections à date fixe, réformer le mode de scrutin, décentraliser. Le premier ministre doit être élu au suffrage universel. Pas un mot là-dessus dans la plateforme du Parti de Québec solidaire. Pourquoi?
Sur la question de la démocratie, eh bien, écoutez, on a tout un volet, effectivement. Là, on a dans notre plateforme, on propose effectivement les élections à date fixe, on est d'accord avec ça. On est la proportionnelle, ça fait longtemps que Québec solidaire s'est prononcé en faveur de la proportionnelle. Donc, il y a effectivement dans notre plateforme là un volet qui concerne, dans le fond, renforcer le pouvoir des citoyens sur la démocratie. Et effectivement, ça, c'est un des... On est en déficit démocratique présentement. J'entendais Mme Marois qui disait ce matin, écoutez, on est dans un système, dans le fond, qui favorise deux partis. Donc, en voulant dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en remettant pas en question, nous, on remet en question le mode de scrutin, okay. Et on a des positions très claires là-dessus.
Alors, là-dessus, on s'en va peut-être en petite pause musicale. Au retour, on se lancera sur le thème de l'économie. Je vous rappelle, toujours en compagnie de Serge Roy, candidate dans Taschereau, Martine Sansfaçon, candidate dans Charlebourg, Jean-Yves Desgagnés, candidate dans Jean-Lesage, tous trois candidats pour Québec solidaire. Au micro, Raymond Poirier et François G. Couillard. En musique, Géronimo.
Moi je voudrais des fanfares et des corridas, des grands prix de Formule 1, des chasses à cours et des Vespa. Moi je voudrais des musées, de la musique, des autoroutes à péage et des trains automatiques. Une télé qui fonctionne, des éléphants et des pandas. Moi je voudrais une reine, moi je voudrais un roi et plein d'enfants autour de moi. Et puis aussi un chat que je regarderai grandir avec un cœur rempli de joie. Moi je voudrais du football, des avant-centres et des goals, la plus haute marche du podium, les récompenses, quoi qu'on en pense, ça aide à oublier ces journées perdues où je fais n'importe quoi. Moi je voudrais un belge sur la lune pour y planter nos belles couleurs, un dégradé de gris qui se peine d'heure en heure, des défilés de mode, des mannequins sud-américains, des films comiques au moins, on rigolerait enfin. Moi je voudrais du football, des avant-centres et des goals, la plus haute marche du podium, les récompenses, quoi qu'on en pense, ça aide à oublier ces journées perdues où je fais n'importe quoi. Je voudrais des cigarettes moins chères pour soulager la petite santé du porte-monnaie de ma grand-mère. Moi je voudrais de l'alcool au volant, partout tout le temps, par tous les temps, y aurait peut-être beaucoup moins d'accidents. Moi je voudrais du football, des avant-centres et des goals, la plus haute marche du podium, les récompenses, quoi qu'on en pense, ça aide à oublier ces journées perdues où je fais n'importe quoi. Moi je voudrais des avant-centres et des goals, la plus haute marche du podium, les récompenses, quoi qu'on en pense.
journée est perdue où je fais n'importe quoi. Où je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi.
Et voilà, on entend les dernières notes de Geronimo à l'antenne de CKRL 89.1. Raymond Poirier au micro en compagnie de François G. Couillard. On poursuit cette semaine électorale. Ce matin, on est en compagnie de Serge Roy, Martine Sansfaçon et Jean-Yves Dégagné, tous trois candidats, candidates pour la formation Québec solidaire. Et je vous lance une question, puisqu'on se lance sur le volet économique, qu'on demande à tous les partis, donc en à peu près une minute et demie, donc de manière très brève, puisqu'on en parle quand même beaucoup au niveau provincial. Mais j'aimerais savoir pourquoi Québec solidaire serait mieux placé pour gérer la crise économique, qui propose une solution qui est meilleure, dans le fond, que celle de l'Action démocratique, des libéraux, des Verts, ou des péquistes, donc en 1 minute 30.
Ben écoutez, je peux peut-être lancer, il y a plus général, quelqu'un d'autre ira sur du plus spécifique. Je pense que ce qui est clair, c'est que Québec solidaire est le seul parti qui, dans le fond, remet en question les politiques néolibérales de droite qui ont été appliquées autant par le gouvernement du Parti québécois, le gouvernement libéral, et également par la DQ. Vous savez que la DQ a appuyé Stephen Harper aux dernières élections. Donc, la DQ est anti-Kyoto, anti-avortement, anti-intervention de l'État. On voit leur proposition économique. Donc, je vous dirais qu'on est le seul vraiment parti qui croit au rôle de l'État, qui croit, dans le fond, à ce rôle de redistribution de la richesse, à ce rôle d'intervention dans l'économie. Alors, je pense que c'est la grande différence par rapport aux trois autres.
Et concrètement, je dirais, on est aussi le seul parti qui veut une économie verte, qui veut vraiment faire le lien entre écologie et économie actuellement. Ici, on parle au niveau de l'éolien. On veut nationaliser notre énergie éolienne en partenariat avec les régions, dans le respect des régions. Et pour nous, c'est une façon aussi de développer notre expertise tout en tenant compte de nos ressources naturelles d'ici.
Et si on regarde, peut-être hier on parlait notamment d'aide sociale avec les gens de l'ADQ qui eux nous disaient, regardez, pour inciter les gens à retourner au travail, parce qu'on sait qu'à Québec on manque aussi de travailleurs, et bien dans la province ils disent, regardez, on va faire signer un contrat à 70 000 bénéficiaires pour les amener à retourner au travail. Est-ce qu'on pense que c'est une bonne piste? Quel regard on porte là-dessus et qu'est-ce qu'on offre de votre côté?
Ben, je pense qu'il faut être conscient que M. Dumont est désespéré. Hein? Monsieur Dumont, quand il est désespéré, il sort, en fait, il va jouer la carte de l'intolérance, la carte des préjugés. Alors, donc là, il pognait pas d'un sondage. Donc là, il tape sur les gens à l'aide sociale, tu sais. La formule qu'il propose, là, ça existe déjà. Hein? C'est ce qu'on appelle une subvention salariale. Il y a déjà plein de programmes comme ça qui ont été essayés. Et le gros inconvénient de ces programmes-là, c'est que dans le fond, souvent, les employeurs vont embaucher effectivement des gens à l'aide sociale plutôt que d'embaucher des travailleurs réguliers pour avoir la subvention. Puis une fois que la subvention est finie, on met fin au contrat. Donc, c'est ce qu'on appelle la substitution d'emploi. En général, c'est une des conséquences. L'autre conséquence également, c'est que par rapport donc c'est pas une formule nouvelle. D'une part, il n'y a pas d'obligation qui est faite aux employeurs. Il fait signer un contrat aux gens à l'aide sociale, mais les employeurs, eux autres, c'est quoi le contrat qu'ils signent? Est-ce qu'ils s'engagent vraiment au bout d'un an à embaucher les gens? J'avais pas entendu M. Dumont se prononcer là-dessus.
C'est quoi vous proposez, vous, personnellement, comme Québec solidaire, là, genre, pour les gens sur l'aide sociale?
Pour les gens à l'aide sociale, écoutez, nous, ce qu'on propose, c'est le droit à la formation. Présentement, il existe ce qu'on appelle en pas Québec des services de fonds publics pour aider les gens à réitérer le marché de l'emploi, sauf que finalement, c'est arbitraire. Les gens, moi, je connais beaucoup de personnes à l'aide sociale qui auraient besoin de s'alphabétiser, qui auraient besoin d'aller compléter un secondaire 5, qui auraient besoin d'aller compléter un métier. Ils n'ont pas accès. Il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez de ressources, et souvent, ils se font refuser, puis il n'y a pas de mécanisme d'appel. Alors, il faut que ça devienne un droit, le droit d'avoir une formation pour pouvoir réintégrer. Donc, il faut que les gens puissent contester un refus de la part, tu sais, dans le fond du système, de les aider dans leur démarche d'intégration d'emploi. Donc, on renverse la logique, c'est-à-dire il faut que l'État a l'obligation d'offrir aux gens des vraies formations qui les conduisent vers l'emploi.
Mais croyez-vous que ça marcherait vraiment? Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que peut-être que les gens sur l'aide sociale ne seraient pas intéressés peut-être à faire un secondaire 5.
Absolument pas. Vous donnez des chiffres. Par rapport aux APS au travail, par exemple, de 1996 à 2008, il y a eu une diminution de 50% des gens à l'aide sociale. Vous savez, quand il y a une création d'emploi, quand il y a une croissance économique, les gens quittent l'aide sociale massivement. Il n'y a pas personne qui fait de l'aide sociale son projet de vie. Il y a des gens qui ont plus de difficultés, effectivement, pour s'en sortir. Par exemple, dans les fameux APS, là, les 136 000 APS que M. Dumont parle, là, il y en a 60% qui ont moins d'un secondaire 5. C'est bien beau de dire, là, aller sur le marché du travail, mais quand tu sais à peine à lire et écrire, c'est pas évident que tu vas être capable d'occuper le poste en question. Il y a aussi des gens qui sont très âgés là-dedans. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes de santé qui sont non diagnostiqués. Donc, il faut faire attention à la démagogie et au discours populiste de Mario Dumont.
Parce que eux, ce qu'ils nous disent, dans le fond, regardez, c'est, vous avez dit le mode de vie, justement, c'est un terme qu'ils ont employé. Ils disent, regardez.
C'est pas vrai,
monsieur. Dans le fond, il faut diminuer, si je reprends un peu leurs mots, bien entendu, il faut diminuer, au contraire, l'appui qu'on leur donne pour les forcer à retourner au travail, dans le fond, un peu la carotte et le bâton. Là.
C'est le contraire. Effectivement, ça enfonce. Vous savez, des gens qui sont dans la survie, ça les enfonce, ça les pousse beaucoup plus vers la rue. T'sais. On a assisté au Québec à une augmentation des hommes et des femmes qui se retrouvent à la rue, et c'est justement parce qu'on si on n'assure pas un minimum nécessaire pour couvrir les besoins essentiels, ça fait en sorte que l'état de santé des personnes se détériore, et effectivement, ça coûte beaucoup plus cher pour les aider à s'en sortir. L'autre chose qu'a pas dit M. Dumont, c'est qu'il y a peut-être 136 000 aptes au travail, mais il y a 300 000 chômeurs au Québec. Que va-t-il faire pour ces chômeurs et chômeuses-là, là, pour les intégrer à l'emploi?
Et de votre côté, justement, comment on fait, parce qu'on est dans une situation où on manque de travailleurs, on a parlé un peu d'aide sociale, justement, comment on fait pour restimuler un peu l'économie de la région?
Écoutez, je pense que faut se placer dans le contexte où on est à l'heure actuelle. On nous dit qu'on s'en va vers une crise. Et donc, je pense que les mesures qui doivent être prises à ce moment-là doivent tenir compte du fait que peut-être qu'il va y avoir moins d'emplois dans les prochains mois, dans les prochains 2-3 ans. Et donc, il faut se préparer à faire face à ça. Faut soutenir les premières mesures qu'il faut faire, c'est qu'il faut soutenir le pouvoir d'achat des gens en commençant par les plus démunis. Si on n'ajuste pas les prestations d'aide sociale à la hausse, on va se ramasser avec pas mal plus de monde à la rue.
Je pense que vos idées sont pas très populaires. Là. On dirait qu'on en a juste pour la classe moyenne.
La classe moyenne, elle va trouver son compte dans d'autres choses, dans des mesures pour protéger les régimes de retraite, protéger les REER et faire en sorte que les gens aient accès à plus de sécurité à cet égard-là pour pas qu'ils perdent leur argent, pour pas qu'ils soient pris à perdre aussi éventuellement leur maison. On n'est pas rendu là. Probablement que ça ne se rendra pas là à Québec. Mais je pense que les mesures que Québec solidaire propose vont dans le sens de protéger effectivement le pouvoir d'achat aussi de la classe moyenne. Mais si ceux qui sont en dessous de la ligne de flottaison, on continue de les caler davantage, on ne sera pas service pour toute personne. Le salaire minimum aussi, le salaire minimum que les libéraux prétendent qu'ils vont monter à 9,50 $, bien 9,50 $, c'est énormément en bas du seuil de pauvreté. Alors, il faut l'ajuster mieux que ça pour être capable de passer à travers la crise.
Mais si on augmente le salaire minimum, il faut augmenter les salaires d'un peu tout le monde aussi. Est-ce que ça risque de causer un déséquilibre? Ils nous disent, au niveau économique, ils nous disent que si on augmente le salaire minimum, les entreprises vont se sauver.
Vous savez qu'il y a
c'est totalement faux.
Il y a 4 à 5 % de la main-d'œuvre québécoise qui travaille au salaire minimum. Ça, là, ça c'est encore un mythe qu'on nous sert pour nous dire, hey, si on augmente le salaire minimum, on va créer de l'inflation. C'est absolument pas vrai. Quand on augmente les salaires des employés de l'État, là, puis que ça a un effet de 1 milliard d'augmenter les revenus travailleurs d'un milliard, ça augmente pas l'inflation. Ça, là, c'est vraiment un mythe, un mensonge qu'on a convaincu la population que c'était un privilège que demandaient les travailleurs de travailler puis de sortir de la pauvreté. Il me semble que c'est un minimum dans une société que le travail sorte de la pauvreté.
Peut-être question personnelle face à ça, admettant, et c'est la question que je me pose quand on jase toujours d'augmenter le salaire minimum. Si, mettons, on l'augmente à 9,50 $ à 10 $, ben, ceux qui sont présentement à 10 $, ils vont dire, OK, nous, on n'était pas engagés pour être au salaire minimum, donc nous aussi, on va augmenter de 2 $. Ça fait un effet domino. Donc, ce qui fait que, oui, on augmente le salaire minimum pour 4 à 5 % de la population, mais on l'augmente aussi pour tout le monde d'une mesure à peu près équivalente.
Écoutez, au niveau de notre PIB, il y a 5,7 % qui va en évasion fiscale. Il faut se poser des questions. Dans les dernières années, là, au niveau de la fiscalité, on a vu monter la fiscalité des particuliers et descendre celle des entreprises. Il faut rééquilibrer cette fiscalité-là. Alors, il faut regarder dans le haut de l'échelle, puis faire en sorte que cette richesse-là soit répartie à tous et à toutes actuellement. Puis quand on parle de pauvreté, il faut dire que c'est celle des femmes aussi en particulier. Celle des femmes chefs de famille monoparentales. Puis, qui travaillent le plus au salaire minimum, ce sont les femmes aussi également. Alors, il faut vraiment augmenter ce salaire minimum-là. Il y a eu justement un colloque au niveau d'un colloque international sur les inégalités sociales en santé, et on a vu qu'il y a des impacts de cette pauvreté-là au niveau de notre santé. Il y a des coûts comme ça qu'on sous-estime actuellement. Alors, travailler à la base, c'est ça qui est important pour nous autres.
Et en même temps, bien, c'est sûr que dans une période où on dit les gens sont individualistes, dans le fond, on veut travailler pour nos avantages, comment on convainc les gens de dire augmenter, soyez plus solidaires, soyez prêts à mieux partager la richesse au bout de compte, parce que c'est un discours à contre-courant présentement.
Mais écoutez, on a une caisse de dépôt, OK, qui est notre Bodleian collectif, puis qui qui on voit nos épargnes qui s'en vont à l'étranger. On dit cette caisse de dépôt doit d'abord servir les Québécois, les Québécoises, et qu'on réinvestisse ici dans des projets durables, dans du développement durable.
Mais justement, parlons justement de la caisse de dépôt. On a entendu beaucoup parler depuis le début de la campagne électorale. On n'en a pas beaucoup parlé ici en entrevue. Je ne sais pas pourquoi. Mais justement, c'est quoi qu'est-ce que vous pensez de ces tribulations-là qui se passent là? Donc, on parle de peut-être 20 milliards qui auraient disparu de la caisse de dépôt.
Écoutez, faut voir que la caisse de dépôt, dans le fond, c'est un gros fonds d'investissement. Effectivement, c'est pas surprenant là, qu'ils soient touchés aussi par la crise financière, tu sais, parce qu'ils avaient les mêmes politiques que les autres fonds d'investissement. Alors donc, faut être inquiet, mais en même temps, faut pas non plus mettre le feu au pas, tu sais, ce qu'avait fait la DQ ou le PQ en disant, ben faut rendre des chiffres là. Je pense qu'il faut vraiment ces fonds-là d'habitude, c'est à long terme qu'il faut juger le rendement, ils placent à long terme. Donc dans ce sens-là, je pense. Mais ce qui est clair, par exemple, nous ce qu'on dit dans notre plateforme, c'est que il faut revoir le mandat de la Caisse de dépôt. Mmh. Nous, on pense que la Caisse de dépôt, effectivement, doit investir d'abord dans l'économie d'ici au Québec pour le développement économique d'ici et dans une perspective de développement durable. Tu sais. Et ça, c'est le gouvernement Charest qui a changé la vocation de la Caisse de dépôt. Tu sais. Alors, on a visé la rentabilité financière plutôt que le développement économique puis un développement durable puis des emplois ici.
Madame Sanfasson, tout à l'heure, vous avez parlé d'évasion fiscale. Je me demandais, est-ce que vous parlez des paradis fiscaux? Je me demandais aux provinciales, non, c'est pas ça.
Ben, l'évasion fiscale, c'est du monde qui ne paye pas leur impôt.
Okay.
Les paradis fiscaux, c'est un aspect de l'évasion fiscale, qui est un aspect fort important, mais qui se joue au niveau international.
Comment qu'on lutte contre ça? Moi, je trouve ça intéressant, justement, les paradis fiscaux. Comment est-ce qu'on lutte contre ça? Je veux dire, au provincial, est-ce que...
Oui, contre l'évasion fiscale aussi. Dans le fond, comment on fait pour réussir à rétablir cet équilibre-là?
Ouais.
Bon, deux choses. Par rapport aux paradis fiscaux, le Québec peut pas lutter tout seul contre les paradis fiscaux. Il faut être un pays qui puisse agir aussi au niveau international parce qu'il va falloir des mesures internationales. Il y a une organisation altermondialiste qui s'appelle ATTAC qui a fait des propositions à cet égard-là pour qu'on puisse éventuellement fermer les paradis fiscaux. C'est de la délinquance au niveau financier à l'échelle internationale. Alors, c'est à ce niveau-là, le Québec n'étant pas un pays encore, ben, sa marge de manœuvre, sa capacité d'intervention, c'est à partir de ses lois fiscales, c'est-à-dire à partir aussi de sa capacité à refuser que des fonds sortent du Québec sans qu'il y ait des conséquences à ces sorties de fonds-là. Mais l'autre aspect de l'évasion fiscale sur lequel le Québec a de la poigne, si je peux dire, c'est le fait que plein de gens d'entreprises trouvent des moyens pour ne pas déclarer un certain nombre de revenus, et ça représente à peu près 4 à 5 milliards par année. Alors, c'est beaucoup d'argent. Comment on fait ça? On instaure des programmes au ministère du Revenu, on embauche du monde au ministère du Revenu pour des programmes spécifiques, et ça se fait, ça existe à l'heure actuelle, sauf qu'on ne le fait pas à une suffisamment grande échelle pour être capable d'encercler ça puis de réduire ça de façon notable.
Vous parlez d'engager des nouveaux fonctionnaires. La DQ, s'il était là, il serait pas content?
Ben non, la DQ, je les ai côtoyés ces derniers jours, encore hier, et c'est bien évident qu'il y a un fossé béant entre Québec solidaire et la DQ. La DQ, c'est la voie du passé. La Québec solidaire, c'est la voie de l'avenir.
Moi, j'aimerais ça aussi ajouter qu'il faut aussi faire de l'éducation. Hein. Souvent, les gens, on parle beaucoup du revenu du gouvernement du Québec, 60 milliards, puis on a des intérêts sur la dette. On a l'impression que, en fait, ça, c'est seulement une partie de notre richesse collective. Hein. Le 60 milliards qu'on consacre au gouvernement du Québec là, pour l'ensemble des programmes d'éducation, de santé, tout ça, là, ça représente 20% de notre richesse collective au Québec. Ça veut dire qu'il nous en reste dans nos poches, comme citoyens, là, 80%. Alors, tu sais, quand on dit qu'on peut aller chercher encore plus de revenus, que dans le fond, qu'on peut faire encore plus de sacrifices comme consommateurs, tu sais, je pense que, parce que nous, ce qu'on dit aux gens, écoutez, je pense que c'est plus important de se payer du luxe que de mettre de l'argent pour nos besoins collectifs que sont la santé, l'éducation, la lutte à la pauvreté. Alors nous, on pense qu'on a une capacité financière. Ce n'est pas vrai qu'on n'a pas de capacité financière. On a une capacité financière au Québec. Savez-vous, c'est combien notre richesse collective au Québec, le PIB?
Allez-y.
299 milliards. On en met 60 milliards pour nos services collectifs. Donc, il y a de la marge de manœuvre énormément. Et c'est sûr que ce qu'on propose, Québec solidaire, c'est sûr que ça remet en question aussi notre mode de vie. Il va falloir aussi qu'on consomme moins aussi, parce qu'on est dans une société de surconsommation. Et ça, c'est un gros défi, effectivement. Mais vous savez, il y a toujours eu des gens utopistes, rêveurs. Moi, je suis très fier d'être un utopiste puis un rêveur, parce que finalement, c'est ça, c'est ces gens-là qui ont changé la société. Des fois, ils n'ont pas vécu ça de leur vivant, le changement, mais d'autres ont pris le relais. Et moi, je suis convaincu que Québec solidaire, c'est le parti de l'avenir.
Et peut-être pour terminer, le bloc économique, une petite question qu'on a lancée à tout le monde, à peu près à la même heure d'ailleurs. Alors, l'économie sociale, donc au Québec, à Québec, on sait qu'il y a à peu près 600 entreprises d'économie sociale, si on exclut le mouvement Desjardins, on sait que ça génère au-dessus de 2000 emplois. On a vu avant la campagne électorale, le gouvernement Charest investir un peu plus de 10 millions de dollars dans cette économie-là. Donc, quelle est la place que vous envisagez pour l'économie sociale dans le développement régional? Et ce 10 millions-là, est-ce que c'est un point de départ ou est-ce que c'est une finalité?
Écoutez, nous autres, on veut vraiment justement mettre sur pied un vaste chantier d'économie sociale, avoir 40 000 emplois pour les Québécois et les Québécoises à ce niveau-là. Vraiment dans divers niveaux, que ce soit au niveau des soins à domicile, au niveau de la création d'emplois à la base. Alors pour nous, c'est important cette économie sociale-là, surtout donner les moyens, parce que souvent l'économie sociale, c'est une économie proche des personnes, proche de la population, et pour nous, c'est important de valoriser, reconnaître ça.
Puis il y a toute la question de la souveraineté alimentaire et de l'agriculture verte, tu sais, à fond, ça fait partie aussi dans le développement économique. Là, pour nous, c'est très important de reprendre le contrôle, dans le fond, qu'on devienne souverain. Ce qu'on mange dans notre assiette, là, il faut vraiment qu'on sache d'où ça vient. Il faut que ce soit donc des produits de proximité, des produits biologiques, et en favorisant la petite agriculture, l'agriculture verte, on pourrait aussi créer de l'emploi et manger des aliments sains qui ne nous rendent pas malades, comme les aliments OGM, par exemple.
Je vous lance juste une question, j'étire mon temps, là, mais par rapport à la souveraineté alimentaire, j'ai l'impression qu'au Québec, on est quand même relativement dépendant de l'importation à cause de l'hiver. Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment pouvoir être souverain alimentairement à l'année, au bout du compte?
Bien, écoutez, je pense que quand on veut dire être souverain alimentairement, c'est sûr, dans le fond, il y a des choses qu'il va falloir qu'on continue d'importer, mais on sait qu'avec, entre autres, les serres, on peut quand même produire, dans le fond, il y a des choses qu'on peut produire avec les serres. Ça s'est beaucoup développé au niveau de la tomate, par exemple, au Québec, on a développé ça. Mais je pense qu'il faut, au niveau du, on veut pas se refermer sur nous. Quand on parle de souveraineté alimentaire, ça veut pas dire qu'il faut être totalement souverain, mais il faut viser le maximum par rapport à ce qu'on peut produire ici. Mais au niveau des échanges, au niveau international, il faudra peut-être favoriser des échanges équitables, hein, un commerce équitable avec des produits, par exemple, du Sud, qui, eux autres, par exemple, sont producteurs de café que nous avons besoin, mais plutôt que, dans le fond, de ne pas payer un juste prix, on payera un juste prix, puis on échangera peut-être, on fera du troc entre pays pour, effectivement, là, aller chercher les produits qu'on ne peut pas produire ici. Là.
Simplement, je dirais peut-être que souveraineté alimentaire, ça veut dire être en contrôle de l'alimentation dans notre société. À l'heure actuelle, on est très dépendant d'une certaine forme d'agriculture, et les agriculteurs sont piégés là-dedans aussi. C'est une agriculture industrielle, pensée pour l'exportation, pensée pour des marchés mondiaux, mais avec la vision néolibérale, c'est-à-dire le libre marché, c'est-à-dire les multinationales qui se sont investies dans l'agriculture et qui manipulent à toute fin pratique la sécurité alimentaire et qui insécurisent beaucoup plus qu'autre chose.
Alors ben, on réfléchit à tout ça pendant la pause publicitaire. On est toujours en compagnie de Serge Roy, candidat dans Taschereau, de Martine Sansfaçon, candidate dans Charlebourg, de Jean-Yves Desgagnés, candidat dans Jean-Lesage pour le Parti Québec solidaire, à l'animation François G. Couillard et Raymond Poirier. On se retrouve dans 2 minutes.
Avant 9h, tout est possible.
Vous écoutez CKRL 89.1, l'émission avant 9h, tout est possible. Raymond Poirier, François G. Couillard à l'animation. Et nous sommes en compagnie de Jean-Yves Desgagnés, Martine Sansfaçon et Serge Roy, candidat pour Québec solidaire. On jette un petit coup d'œil ce matin donc à ce que nous propose Québec solidaire dans la capitale nationale. J'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur les infrastructures, parler un peu de ces différents dossiers. Notamment, on vous avez parlé du patrimoine dans le passé, avant la campagne, pendant la campagne. Vous avez amené des intervenants à dire qu'à force de mettre de côté certains bâtiments patrimoniaux, on mettait peut-être en danger notre statut patrimonial. Vous avez envoyé une lettre à l'UNESCO. Vous vous êtes posé des questions face à ce développement-là qu'on en fait, cette gestion-là, qu'on fait ce que vous appelez un bien collectif. Mais d'un autre côté, ce qu'on nous dit beaucoup, c'est que si on met un frein au développement économique, à la construction de condos, ça génère moins d'argent en taxes. Au niveau municipal, on perd des sous. Quel regard un peu vous portez sur le dossier? Comment vous répondez à ces critiques?
Écoutez, c'est vrai qu'on a fait des démarches auprès de l'UNESCO et nous persistons et nous signons parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis ce moment-là. Il ne s'agit pas d'essayer de faire perdre le statut à Québec, c'est bien le contraire qu'il s'agit de faire, mais pour le conserver, ce statut-là, puis que ce soit dynamique, que ça représente quelque chose, il faut cesser de laisser aller le patrimoine comme on l'a fait au cours des dernières années. Il y a eu une période de temps où, là, il y a eu des investissements absolument colossaux dans le Vieux-Québec, on s'en rappelle, Place Royale, etc., etc., sauf que maintenant, on voit une détérioration et ça nous a inquiétés. Ça nous a inquiétés aussi parce que c'est la direction que ça prend. C'est-à-dire que on est prêt à raser un certain nombre de choses. Vous avez vu, la Ville de Québec était prête à réduire le périmètre de l'espace protégé par le patrimoine mondial. Pourquoi? Pour favoriser un promoteur dans la Côte d'Abraham, dans le cas de l'ancien patron Saint-Vincent-de-Paul et de l'église Saint-Vincent-de-Paul. Et ça, je trouve ça très inquiétant. Par ailleurs, des projets de condos, on va vous dire, franchement, tant qu'à moi, c'est pas ça qui fait une société forte, c'est pas ça qui construit une économie. Au contraire, ça crée, ça génère un certain nombre de problèmes au plan logement. Et on pense que le patrimoine, oui, peut servir à faire du logement éventuellement, mais du logement qui soit abordable. La dynamique de condo qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est une dynamique qui favorise la spéculation immobilière, qui favorise la hausse constante du prix du logement, et ça, je pense que personne dans la région de Québec qui a intérêt à ça, sauf une petite clique, et des gens qui, peut-être bien intentionnés, s'imaginent que c'est comme ça qu'on peut s'enrichir. Alors, je pense qu'il faut avoir une vision du patrimoine qui intègre des fonctions sociales très actuelles, qui répond à des besoins actuels. Et c'est pour ça que le projet de la Côte d'Abraham, qui est un projet d'hôtel, qui pourrait être à la limite acceptable, pourrait être remplacé par quelque chose de bien mieux, qui intégrerait du logement abordable.
Là, justement, vous en avez parlé, justement, de la façade de l'église. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, actuellement, ça appartient aux hôtels Jarreau. Donc, c'est en train de périr sur place. Puis c'est drôle, on en parle. C'est à cause de vous, finalement, qu'on en parle pendant cette campagne-là. Puis très peu, faut le dire. Pourtant, c'est aussi visible que le nez au milieu du visage. Qu'est-ce qu'on fait?
Une verrue même béante, énorme. Je dirais, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on n'a pas arrêté notre position à Québec solidaire sur qu'est-ce qu'on va faire. C'est certain qu'on va intervenir à nouveau là-dessus, parce que là, on a appris la semaine passée que malgré ce qu'avait dit la ministre Saint-Pierre, il n'y a pas d'entente avec le promoteur. En tout cas, le promoteur prétend qu'il n'y en a pas. Alors, il y a quelqu'un à quelque part qui va falloir qu'il dise la vérité. On a interpellé la ministre à deux reprises, elle n'a pas répondu, elle n'a pas donné d'indication sur ce qu'ils allaient faire. Moi, ma position, et c'est celle que je vais défendre à Québec solidaire, j'espère avoir assez d'influence encore à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exiger qu'il y ait un délai maximal de donner au promoteur pour qu'il indique quel est son projet, dans quel délai il va le réaliser et quels moyens il va prendre pour protéger ce qui reste de la façade.
Okay, deuxièmement, un ultimatum.
Et je pense qu'au bout de ce délai-là, il faut lui retirer l'espace en question et le confier à d'autres organismes. Il y a d'autres mondes qui sont prêts à développer ce coin-là avec des projets un petit peu plus adaptés aux personnes et qui pourraient aussi être connecté avec le projet qui est extraordinaire de Robert Lepage dans les trous qui ont été pratiqués autrefois. À l'époque, on pensait qu'on pouvait faire ça n'importe comment du développement.
Il y a aussi le patrimoine naturel qu'on oublie souvent, qui fait partie justement de nos richesses collectives. Puis dans la région de Québec, il y a 67 milieux naturels qui ont été répertoriés. Et on dit que la Ville de Québec avait fait sien l'objectif du gouvernement du Québec de protéger 8% de son territoire. Et dans la région de Québec, même nous, Québec solidaire, l'inverse. On veut même que ça soit 12 % et juste dans la région, il y a 1312 hectares qui manquent pour atteindre ce 8 %-là. Alors actuellement, ce qu'on voit, c'est que ce sont même, comme on le voit au niveau des condos, on voit que ce sont encore les promoteurs qui ont la palme auprès de nos gouvernements pour justement faire du développement sans le respect de cet environnement-là. Et pourtant, c'est la qualité de vie qui est menacée actuellement. C'est ce patrimoine-là qui est menacé et que malgré plusieurs citoyens, des référendums, on ne tient pas compte de ça. Alors ça, c'est inacceptable. Et moi, je vais lutter pour ça. Puis nous, Québec solidaire, le patrimoine naturel est indissociable de notre patrimoine culturel.
Et tout à l'heure, en fait, François parlait de la façade de l'église. Si on reste dans le même secteur géographique, il y a un autre projet qui fait couler beaucoup d'encre. C'est celui de l'Hôtel-Dieu de Québec. On a vu la facture augmenter, en fait, 175 millions de dollars en 2005, 400 millions en 2007, 635 millions de dollars maintenant. De votre côté, qu'est-ce qu'on fait avec ça?
Écoutez, un PPP, c'est inacceptable dans ce secteur-là. OK? Pour nous, un des problèmes aussi qu'on voit, c'est le manque de transparence dans ce dossier-là. On a essayé de faire des démarches, on a fait des démarches pour avoir l'information, et cette information-là nous a pas été donnée. Alors, pour nous, oui, c'est important que ce projet-là reste dans ce secteur-là, mais c'est surtout qu'il reste public comme projet, parce que à quelque part, qui dit public dit aussi intérêt collectif. On ne veut pas que des intérêts de profit puissent influencer justement ce projet-là.
Moi, je rajouterais par rapport au manque de transparence, vous savez que le projet de l'Hôtel-Dieu, dans le fond, c'est devenu un projet en PPP parce qu'il y a eu supposément un rapport de l'agence, tu sais, de partenariat public-privé qui recommandait, qui disait que c'était plus rentable d'aller vers un PPP. Sauf que c'est pas public. On a demandé d'avoir accès aux documents. On n'a pas accès à ça. Et les deux acteurs principaux qui ont pris la décision, M. Philippe Couillard, qui est rendu dans le privé, puis l'autre, le président, là, qui va quitter le président de l'Hôtel Dieu, là, il siège sur le CA de la compagnie de l'assurance La Capitale, tu sais. Alors, donc, deux acteurs, dans le fond, qui avaient intérêt à favoriser le privé. Alors, il y a un conflit, en fait, donc le jupon dépasse, là. Tu sais, le Parti libéral du Québec favorise ses petits amis. Probablement que derrière tout ça, là, il y a des firmes d'ingénierie, il y a des gens proches du parti qui, dans le fond, vont tirer des bénéfices de ça. Et ça, c'est la population, malheureusement, tu sais, qui va en payer le double puis le triple au niveau du prix. Il faut mettre fin à ça. Donc, il faut revenir, dans le fond, sur l'idée d'un PPP, mais effectivement, il faut aller vers une modernisation, mais avec des fonds publics, totalement publics.
Et ça nous amène à parler du système de santé, de ce qu'on met dans cet hôpital-là. Vous avez publié tout récemment votre plateforme régionale en matière de santé. Vous dites notamment qu'il faut sortir le privé en santé, qu'il faut renforcer le système de santé public. Dans le contexte économique actuel, considérant les budgets qui sont investis en santé, de quelle manière on peut réalistement éviter de garder une part de privé dans le système?
Bon, écoutez, il ne s'agit pas d'éliminer carrément le privé dans le système. Ça fait depuis toujours, je dirais, qu'il y a du privé dans le système de santé. Cependant, depuis quelques années, depuis une vingtaine d'années, carrément, on est allé vers l'ouverture et avec le rapport Castonguay qui a été rendu public récemment.
Mais il a été tabletté quand même.
Il a été tabletté, sauf qu'il faut regarder la stratégie de Couillard, il faut regarder la stratégie des libéraux qui va exactement dans le sens qui est proposé, mais sans qu'on l'affirme. Alors, c'est une stratégie insidieuse. Et moi, je pense qu'il faut effectivement mettre un stop. Fermer les vannes, c'est fini. Le glissement vers le privé. Et ça se fait de façon tellement insidieuse. Il y a des exemples qui peuvent être donnés à cet égard-là. Et je pense qu'il faut que les gens comprennent que quand on s'en va vers le privé, ça veut dire que ceux qui ont de l'argent vont peut-être être capables de payer, mais ceux qui n'en ont pas seront pas capables de payer. Et ça veut dire se payer aussi des assurances privées pour être capable d'obtenir des soins par la suite. Il y a une partie de la population, et ça veut dire un glissement vers ce qui existe aux États-Unis. Mais si vous permettez, Martine a fait des observations très concrètes sur ce que ça veut dire le glissement au privé à l'heure actuelle. Je pense qu'elle pourrait vous illustrer ça de façon fantastique.
Écoutez, au niveau de Charlebourg, on a perdu les cliniques sans rendez-vous en septembre dernier, puis ça a été transféré dans une clinique privée à Le Bourgneuf-le-Ménil. Qu'est-ce que ça veut dire? Les consultations vont continuer d'être gratuites, mais ça veut dire que des frais vont s'ajouter. Au Ménil, si vous voulez, par exemple, avoir un vaccin, c'est 6 $ le vaccin. Électrocardiogramme, c'est 40 $ l'électrocardiogramme. grammes, c'est 7 $ au niveau de l'examen d'urine. Alors, voilà, on privatise graduellement, ça se fait en douce, puis on voit aussi, c'est la même chose au niveau du CLSC Basseville. La même chose, on voit cette fusion-là, on voit nos médecins qui étaient au CLSC transférés au niveau du privé. Alors, pour nous autres, c'est inacceptable.
Le problème, c'est que la population vieillit, les frais de santé, ça coûte de plus en plus cher. Déjà, ça entame une grosse partie du budget. Je vous donne les arguments de la DQ. Donc, Mario Dumont, ce qu'il dit, c'est qu'il faut plus de privés dans la santé. Il s'appuie évidemment sur le rapport Castonguay. Et il dit que les gens seraient d'accord de payer 50, 70 $ pour une opération. De toute façon, c'est le prix qu'ils payent pour un repas au restaurant.
Bien là, je pense que, je ne sais pas sur quelle planète ils vivent, M. Dumont, les ADQ, je pense qu'ils ne fréquentent pas les mêmes personnes, les mêmes citoyens que nous. Là. Effectivement, moi, je ne sais pas ils ne fréquentent pas la même population que nous. Dans le fond, il y a des gens, effectivement, qui ont de la difficulté à manger, à se loger. Alors, ces gens-là, ils vont avoir encore bien moins de possibilités de se payer une assurance ou de payer, tu sais, pour une consultation.
Donc,
je pense qu'il ne faut pas aller vers ça. Je veux dire, je l'ai dit tantôt, il y a de la richesse. On peut mettre encore plus d'argent dans le système public. Dans le fond, les problèmes dans le système public ont été causés par les mises à pied massives, ont été causés parce qu'on a privé l'État québécois de 5 milliards de revenus annuels avec les réductions d'impôts. Mettez ça sur plusieurs années, c'est pas mal d'argent, ça. Alors, c'est ça les conséquences de ces décisions irresponsables-là. On les paye aujourd'hui. Alors, nous, ce qu'on dit à Québec solidaire, il faut effectivement réinvestir dans le système de santé et il faut réduire un des facteurs importants d'augmentation des coûts du système de santé, c'est les médicaments. C'est le principal facteur. Alors, nous, par exemple, on propose effectivement de créer Pharma-Québec, une entreprise qui produirait des médicaments, pas tous les médicaments, mais certains médicaments, pour forcer les entreprises privées à réduire les coûts. Ça s'est fait en Nouvelle-Zélande. On a réduit les coûts de 30 %. Nous, on pense qu'au Québec, on pourrait sauver 1 milliard en coûts de médicaments. On prend cet argent-là, on le met dans le maintien de domicile, on le met dans la bouche d'un médecin, puis dans la bouche d'infirmière.
Puis dans la prévention aussi.
Dans la prévention, voilà.
Dans la prévention, je pense que c'est très important. Il faut avoir une stratégie à cet égard-là, parce que vous parliez tout à l'heure du vieillissement. Il y a des études qui lui font la démonstration que c'est faux, que ça va produire des dégâts épouvantables, que ça va pomper des ressources financières considérables, parce que c'est pas exact que les gens en vieillissant sont nécessairement malades. Et si, justement, on a des mesures pour prévenir la maladie, si on a des mesures pour le soutien à domicile, etc., on diminue considérablement les risques d'augmenter les coûts en santé. Alors, c'est ça. La santé, il faut viser de garder le monde en santé. Moi, le défi des médecins, c'est pas d'avoir de plus en plus de clients malades. Il faut que leur défi, ce soit d'en avoir de moins en moins et que les gens soient en santé et qu'ils aient simplement un suivi à faire par la suite pour que tout le monde aille bien. C'est ça le défi de la santé.
Et du côté du PQ, on nous dit, en fait, on va nous donner un médecin de famille à tout le monde. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez à faire? Est-ce que c'est quelque chose qu'avec vos réformes, vous pensez qu'on va pouvoir rendre possible?
Ben, vous savez, par exemple, dans notre plateforme, on propose de reconnaître, il y a des médecins étrangers qui sont ici, qui ont les compétences, et finalement, à cause, on leur met plein d'obstacles. Alors, donc, on veut qu'on reconnaisse, dans le fond, la compétence de ces médecins-là, puis rapidement, on pourrait effectivement avoir davantage de médecins dans le réseau de la santé. Donc, oui, il faut aller dans le sens de plus de médecins, effectivement, puis des médecins, effectivement, qui font de la prévention aussi.
Mais il faut aussi améliorer les conditions de travail. Moi, je connais des infirmières actuellement, là, qui sont forcées de faire du temps supplémentaire aussi. On peut répartir le travail aussi, faire plus de postes à temps complet par rapport au temps partiel, parce que je connais beaucoup d'infirmières aussi qui ont de la difficulté à avoir un poste même actuellement dans les conditions. Alors, il y a beaucoup aussi de personnes qui sont sur appel encore actuellement. Alors, il faut améliorer les conditions de travail, puis en même temps, voir aussi une nouvelle répartition entre les médecins et les infirmières au niveau des tâches aussi.
Ah ben, là-dessus, on retourne en musique. Une petite pause avec Rebecca Higgs. Je vous rappelle, on est toujours en compagnie de Serge Roy, candidat dans Taschereau, Martine Sansfaçon, candidate dans Charlebourg, Jean-Yves Desgagnés, candidate dans Jean Lesage, tous pour Québec solidaire. François Gécouillard, Raymond Poirier avec vous. Rebecca Higgs en musique.
Hey there, Mr. Just get my hopes up every time you point your finger to the sky. I prayed for sunshine and you said today's the day. But it's me who gets wet every time behind the desk is oh so dry. And I'm sorry you get blamed for everything, it must be a tough job. Looking good gets tiring, but could you try harder? You're all we've got. I
desert weatherman. Come rain, come snow, come sleet. It's you who's gonna get it this time. I'm not giving in, you'll see. You said prepare for rainy weather, so I packed up all my gear. But it's sunshine everywhere, and you're grinning from ear to ear. And I'm sorry you get blamed for everything. It must be a tough job. Looking good gets tiring, but could you try harder? You're all we've got. Mr. Weatherman, Mr. Weatherman, Mr. Weatherman, Mr. Weatherman, Mr. Weatherman.
Et voilà, Rebecca Higgs, ode au métier de météorologue. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL 89.1, Raymond Poirier, François G. Couillard avec vous. Nous sommes toujours en compagnie de trois candidats de Québec solidaire, Serge Roy, Martine Sansfaçon et Jean-Yves Desgagnés. Et on va se lancer sur le grand thème de l'éducation. Je te laisse se lancer, François.
Donc, question très simple, évidemment, l'éducation, il y a des partis qui proposent d'indexer, d'autres qui proposent de geler les frais. Donc, qu'est-ce que Québec solidaire propose pour les frais de scolarité?
Nous, on propose la gratuité scolaire du primaire aller jusqu'à l'université, parce que pour nous, l'éducation, c'est un droit. C'est un droit, puis on a une responsabilité collective au niveau de l'éducation. Et on a vu dans les dernières années, tous les gouvernements ont fait des coupures massives à ce niveau-là, et on en vit encore des répercussions épouvantables au niveau du sous-financement. Nous, ce qu'on propose, entre autres, c'est une réforme du système d'aide financière, parce qu'on voit l'endettement des étudiants, 11 700 à la fin des études au niveau universitaire, et c'est inacceptable. Alors nous, on propose d'éliminer cet endettement-là en procédant graduellement à la conversion des prêts en bourse. On veut reconnaître l'autonomie financière des étudiants et des étudiantes dès leur départ du domicile. On veut en même temps exclure les pensions alimentaires de la contribution des étudiants. On sait que la pension alimentaire, c'est d'abord pour les enfants. On veut aussi augmenter les dépenses admises. Puis en même temps, on veut reporter le remboursement des prêts étudiants lorsque les étudiantes sont en période périnatale.
Mais tout ça, ça va nous coûter une fortune!
Écoutez, attention, effectivement, ça coûte de l'argent, l'éducation. Mais nous, ce qu'on dit, le meilleur, c'est pas le principe du payeur-utilisateur. Nous, ce qu'on dit, c'est que quelqu'un qui se forme, qui est scolarisé, quand on forme un médecin, on forme un professeur, on forme un ingénieur, c'est toute la société qui en profite. Donc, c'est la meilleure façon de payer pour l'éducation, c'est par l'impôt. On va payer en fonction de sa richesse. Pour nous, c'est comme ça. Hein? Tu sais, dans le système privé, c'est les prix. Dans le système public, c'est les impôts. Oui, tout a un prix, mais c'est comment on le paye, cette chose-là. Et nous, c'est l'ensemble des citoyens qui doivent le payer.
Je vais peut-être lancer une question à Mme Sansfaçon, parce que dans un résumé de débat que vous avez fait à l'Université Laval, il y avait eu l'argument, mais votre réponse n'avait pas été imprimée. Alors, je vous lance l'argument qui avait été lancé par un de vos co-débatteurs. Il disait, regardez, face à, dans le fond, l'endettement étudiant. Alors, pourquoi faire porter le fardeau à toute la société pour l'avantage d'un individu? S'endetter pour étudier, c'est un peu investir en soi-même et c'est créateur d'une certaine fierté également.
Écoutez, moi j'avais répondu là-dessus justement qu'il n'y a pas de fierté à endetter nos enfants puis les étudiants et les étudiantes parce que, à quelque part, c'est l'avenir de notre société qui en dépend au niveau de l'éducation. Puis écoutez, on estime que ça coûterait 650 millions la gratuité scolaire. Le Brésil, là... OK, l'Université de Brasilia, c'est gratuit actuellement. Puis nous, on dit, c'est par cette fiscalité-là, c'est un choix collectif à faire. Et quand les étudiants se forment, c'est toute la société qui se forme et qui va en bénéficier plus tard. Alors, il n'y a pas de fierté à endetter nos enfants et la génération future actuellement.
Mais moi, je me rappelle quand j'en ai parlé à une de mes amies, elle me disait, ben là, c'est con parce que les pauvres, OK, d'accord, ils ne payent pas, mais les riches, eux, ils ne paieront pas non plus. C'est un peu injuste.
Non, mais écoutez, c'est ça quand on parle d'une fiscalité redistributive. C'est ça qu'on veut dire. C'est qu'à travers nos impôts, OK, ils vont payer ce système d'éducation-là. C'est la même chose lorsqu'on donne un système de santé collectif. C'est pas tout le monde qui est malade, mais moi, ma mère, présentement, qui a le cancer, a écouté toutes les personnes. Jamais qu'elle aurait pu suivre ses traitements. Alors, c'est collectivement, on met nos forces puis nos richesses ensemble. Puis, c'est pour ça que l'éducation, il ne faut pas retourner en arrière ou que c'était les plus riches qui étaient instruits.
Mais je vous lance le contre-argument, peut-être. Je veux entendre votre réaction face à un argument que j'entends beaucoup, qu'on entend dans certaines radios aussi. Ils nous disent, tant qu'à le payer en impôts. Moi, j'aime mieux le payer au service. J'aime mieux arriver à l'hôpital et dire, OK, je me fais opérer, je paye mon 100$, je paye mon argent pour me faire éduquer. Comme ça, les gens disent, ben, je sais comment j'investis à la place de le payer en impôts puis de pas trop savoir où ça va. C'est un argument qu'on entend. Qu'est-ce que vous répondez à cet argument?
Ben, ça, c'est le meilleur moyen de se mettre dans le trou, tout le monde, comme société et comme individu aussi. Ceux qui sont riches vont pouvoir le faire. Ceux qui le sont pas ne pourront pas le faire. Premièrement. Deuxièmement, l'éducation qui, de plus en plus, au cours des dernières années, s'est orienté en fonction des intérêts des entreprises. Il faut regarder, il faut aller voir à l'Université Laval hein, comment ça fonctionne dans certaines facultés. On oriente l'éducation en fonction de l'entreprise. On ne veut pas exclure qu'il y ait des choses qui soient utiles pour l'entreprise, mais il faut d'abord que l'université soit utile pour la société, pour l'ensemble de la société. Et donc, on doit répartir le coût sur l'ensemble. C'est ça la solidarité aussi, à quelque part. C'est ça la fonction des impôts qu'on paye. Et ça, c'est pas complètement farfelu. Regardez en Allemagne, qui est pas un pays particulièrement porté sur la gauche à l'heure actuelle, ils ont pas remis en question, au moment où on se parle, la gratuité dans l'éducation, jusqu'à l'université. Ça coûte rien aller à l'université en Allemagne à l'heure actuelle. Écoutez, ça veut dire que ça marche. Il y a quelque chose qui est possible de ce côté-là.
Mais qu'est-ce qu'on
fait? C'est une vision plus collective qu'il faut mettre de l'avant, contrairement à la vision individualiste où chacun fonctionne pour lui-même. Bon sang, on vit en société, on pourra-tu avoir des moyens collectifs pour organiser cette société-là?
Mais vous parliez tout à l'heure, en fait, de former des médecins, par exemple. Donc, si on les forme gratuitement, et c'est un autre argument qu'on entend, alors je me fais un peu l'avocat du diable, je sors ma liste, comme on dit. Mais si, comment on fait pour s'assurer que l'investissement qu'on a fait dans ces gens-là va rester au Québec? Est-ce qu'on les force à travailler au Québec si eux autres décident d'aller travailler en Ontario, d'aller travailler aux États-Unis? On perd notre investissement collectivement, là.
Mais je pense que c'est ça. Je pense qu'à quelque part, on doit aussi s'organiser pour que les ressources restent ici aussi en même temps. Là, je pense qu'il y a, il y a cette responsabilité là collective. Et c'est sûr qu'il va falloir réfléchir par rapport à ça aussi.
Comment on fait
là.
Ça?
Ben écoutez, je pense que dans le fond, je pense qu'il peut y avoir, on le dit, il y a un coût à former quelqu'un. Alors effectivement, si cette personne-là, effectivement, s'en va travailler, maintenant elle a été formée pour travailler au Québec, ben, il faudra trouver des solutions. Tu sais, il y a des pays, par exemple, où tu dois travailler un certain nombre d'années, tu sais, dans le réseau institutionnel au public. Dans le fond, tu travailles à un salaire qui est moindre. Ou encore, ça devient une dette, puis tu dois nous la rembourser, cette dette-là, parce que on a investi en toi collectivement. Donc, effectivement, s'il y a un effet de, si on forme du monde qui s'en va ailleurs, tu sais, va falloir effectivement prendre des mesures.
Mais faudrait lui aussi, c'est quoi l'ampleur du problème? C'est effectivement, ça. On met ça en perspective. Quand il y a un médecin qui part, ça fait la une des journaux. Mais quand il y en a un qui revient, on le passe en arrière des petites annonces de je sais pas trop quoi. Parce que ça aussi, ça se produit. C'est vrai qu'il y a des médecins qui, à un moment donné, s'en vont à l'extérieur, mais quand ils repensent à leur affaire, quand ils regardent le coût de la vie au Québec, quand ils regardent les programmes sociaux qui existent, la qualité de vie qui existe au Québec, ils lâchent les États, ils lâchent l'extérieur, puis ils s'en reviennent au Québec. Parce que ça aussi, ça compte dans la vie. Et les médecins qui ont minimalement une conscience sociale, de par leur formation, savent très bien que ça aussi, ça a une valeur. Et c'est pas juste la question monétaire qui rentre en ligne de compte à ce moment-là.
Puis moi, je voudrais rajouter, il vient d'avoir un rapport de l'OCDE, tu sais, dans le fond, sur un peu, qui démontre qu'il y a eu un élargissement des écarts entre les riches et les pauvres, tu sais, dans l'ensemble des pays riches. Il y a aussi une donnée intéressante, c'est que, dans le fond, on a regardé le lien entre les inégalités de revenus et la mobilité sociale. Tu sais, comment, est-ce que, dans le fond, le fait qu'il y a moins d'écarts de revenus, est-ce que ça permet, mettons, un fils de quelqu'un qui est à l'aide sociale, par exemple, de pouvoir améliorer son sort. Et là où il y a les meilleures mesures de réduction des inégalités, soit par le revenu, soit en ayant des services de santé universelle, d'éducation, c'est eux, dans le fond, où, effectivement, tu as le plus de garanties que tu ne seras pas pauvre toute ta vie, parce qu'il y a des mesures qui font en sorte qu'on va te soutenir. T'sais. Alors qu'aux États-Unis, c'est le pays qui réussit le moins au monde, où on engendre la pauvreté de père en fils puis de mère en fille, parce que, justement, on n'a pas assez de mesures universelles en termes de soins de santé, d'éducation.
Et est-ce dans les mesures universelles, est-ce qu'on pense aussi, peut-être en terminant, avant d'aller en publicité, est-ce qu'on pense aussi aux garderies, par exemple, du côté du PQ, on nous dit un enfant, une place. Qu'est-ce que vous faites pour les familles, vous autres?
Nous, on propose 38 000 piastres en garderie, mais aussi favoriser du temps partiel pour cette meilleure conciliation famille-travail aussi. Mais on veut aussi inclure les 20 000 personnes qui sont exclues du régime québécois d'assurance parentale. Toutes les personnes qui ont un revenu de 2 000 $ et moins sont exclues actuellement. On est le seul parti à vouloir les inclure. Puis Puis on veut en même temps revenir à rétablir un régime d'allocation par allocation familiale universelle aussi, pour pouvoir favoriser cette collectivité-là, puis soutenir les familles. Et en même temps, reconnaître aussi le travail à la maison au niveau de la régie des rentes. Parce que présentement, ceux et celles, les parents qui sont restés à la maison, toutes ces années-là ne sont pas comptabilisés. Et maintenant, soutenir aussi également les proches aidantes aussi.
Les proches aidants, à peu près de l'ordre, on parle de soutien, par exemple, pour les remises. Est-ce qu'on a chiffré ces éléments-là? Ou...
ce serait une prestation de 238 $ par semaine. Voilà, qu'on propose aux proches aidantes actuellement.
Alors, là-dessus, on s'en va en pause publicitaire. Au retour, dans le fond, on se garde notre bloc environnement qu'on mettra en question en rafale également. On va parler de souveraineté aussi. On verra. On va parler de ce qu'on n'a pas eu l'occasion de parler jusqu'à maintenant. Alors, Jean-Yves Desgagnés, Martine Sansfaçon, Serge Roy, vous restez avec nous. François Gécouillard, tu restes avec moi également. Raymond Poirier au micro, on s'en va en publicité. On se retrouve dans quelques instants.
Ceci n'est pas un bulletin de nouvelles. C'est Mise à jour, animé par José Arsenault à Vox. Un rendez-vous d'information en direct de Québec qui présente la nouvelle sous un angle constructif. Un regard différent, inattendu, aiguisé et impartial. En compagnie d'Antoine Robitaille, Marc Nadeau, Richard Thérien, Carlo Alberton et des correspondants web, José Arsenault anime un magazine moderne, interactif, plus près de vous. Mise à jour, du mardi au vendredi 17h à Vox, Câble 9, une exclusivité de Vidéotron. Vox, ça fait du bien se voir.
Tous les samedis, CKRL, la radio culturelle, vous propose
Culture Club,
votre magazine culturel animé par François Tremblay. De 12h30 à 14h, on fait le tour du club. Scène locale, musique, cinéma, tendances et découvertes.
Culture Club.
Le midi, on se branche culture et on se joint au club.
Capitaine Caverne présente la deuxième édition du championnat d'impro mixte de Québec. 16 improvisateurs s'affronteront dans un tournoi éliminatoire de mix 1 contre 1. Yves Bernard, Martin Boily, Marie-Christine Bouillon, Simon-Pierre et Sylvain Derasme, Marie-Soleil Dion, Benoît Gagnon, Olivier Godet-Savard, Benoît Gignac, Corinne Giguère, Daniel Gosselin, Patrick Guérard, David Kelly, Jean-Philippe Lehoux, Éric Marcoux et Pierre Turcotte. 16 joueurs, un seul champion. Le samedi 29 novembre à 20h à la salle Hydro-Québec du pavillon des Jardins de l'Université Laval. Informations et réservations, Capitaine Caverne à commercialvideotron.ca.
Sirius Radio Satellite présente Fréquence Québec émergente et capitale, deuxième édition. Les vendredis de novembre, assistez à l'événement qui présente les groupes émergents de Québec.
Cette semaine, le vendredi 28 novembre, au boudoir 441 rue du Parvis, la soirée pop-rock avec Mosquito Bay de Crash Phonics et Luigi Boisio.
Entrée gratuite, place limitée. Collaboration Québec-Scope Magazine, Line 6, Le Boudoir, Radio-Canada, CKIA 88.3, Énergie 98.9 et CKRL 89.1, la radio culturelle à Québec.
Vous écoutez le 89.1, la radio culturelle à Québec.
Avant 9h, tout est possible.
Ben voilà, toujours à l'antenne de CKRL 89.1. Dernier segment de ce quatrième jour de la semaine électorale. Alors, on parle avec des gens de Québec solidaire. Jean-Yves Desgagnés, Martine Sansfaçon, Serge Roy. On arrive avec notre dernier bloc, donc il nous reste une dizaine de minutes. On y va avec des questions en rafale. Donc, question brève, réponse brève. On essaie de répondre en 30 secondes à peu près. C'est un petit défi. François Gécouillard, je te laisse lancer le bal.
Alors, moi, j'aimerais ça commencer avec une question très facile pour M. Desgagnés. Alors, j'aimerais décrire M. Desgagnés, si vous ne l'avez pas encore vu, sur les poteaux de téléphone près de chez vous. Les poteaux, en tout cas. Donc, M. Desgagnés a une belle moustache. Une belle moustache qui est recourbée sur les bords. Alors, j'aimerais savoir, M. Desgagnés, est-ce que c'est bon dans votre campagne? Est-ce que c'est gagnant pour votre campagne d'avoir une belle moustache?
Ben, je me fais dire souvent, effectivement, que j'ai une belle moustache, puis qu'il y a même des gens qui me disent, ben, je vais voter pour vous. il semble que ça soit un atout supplémentaire. Mais j'espère qu'on va plus loin que ça pour.
Oui, ben, fait, c'est une question d'image. Mais peut-être si on reste avec M. Desgagnés, je sais que vous en avez fait un dossier, bon, à Limoilou, l'incinérateur. Vous avez dit, bon, il faut le fermer. Carrément, on sait que c'est très polluant, une des usines les plus polluantes en Amérique du Nord. Si on ferme, qu'est-ce qu'on fait avec les déchets?
Vous savez qu'on n'est pas le seul. Je ne suis pas le seul à demander la fermeture de l'incinérateur. La santé publique indique qu'il faut effectivement fermer l'incinérateur. Donc, parce qu'il y a effectivement un danger pour la population. Ce n'est pas pour rien qu'un écart d'espérance de vie de 7 ans pour les gens de Limoilou et les gens de la Haute-Ville. Alors, donc, oui, il faut fermer l'incinérateur. Naturellement, on ne le ferme pas demain matin, mais il faut prendre des mesures. Donc, il faut réduire nos déchets à la source. Donc, tout ce qui est le suremballage, par exemple, il faut vraiment forcer les entreprises à mettre fin au suremballage parce qu'il ne faut pas alimenter le monstre, comme on dit. Alors, donc, réduire à la source, il faut aussi augmenter la récupération des matières compostables. T'sais. Donc, il faut accélérer effectivement cette chose-là. Et, malgré tout ça, parce qu'on peut réduire, on sait qu'on peut réduire des deux tiers ce qu'on met dans l'incinérateur. Il en reste toujours un tiers qu'il va falloir qu'on traite. Alors ça, on va l'enfouir, mais on va l'enfouir de façon intelligente. En Nouvelle-Écosse, par exemple, ils font de l'enfouissement sélectif, c'est-à-dire qu'on met ce qui est semblable, on l'enfouit ensemble et on fait de la recherche pour trouver des façons de pouvoir aller récupérer ces ressources, en fait, exploitables.
Et les deux tiers des vidanges qui ne se rendront pas à l'incinérateur, vous dites, comment est-ce qu'on va s'en débarrasser?
On peut s'en débarrasser. En fait, il faut les matières. En fait, on augmente la récupération de la source. Donc on réduit le suremballage. On va investir. On va falloir aussi qu'on protège. Vous savez que s'est développé effectivement des entreprises d'économie sociale qui font de la récupération. Présentement, sont un peu menacées. Donc, il va falloir qu'on soutienne aussi ces entreprises-là qui continuent à faire la récupération de ce qu'on peut, du carton, de tout ça là.
Donc, parlons un peu de souveraineté. Donc, la souveraineté du Québec. Le Québec solidaire s'est prononcé pour. Il y a des nouveaux partis qui dont le parti indépendantiste qui est apparu pour faire la promotion de ce projet.
Et République du Québec.
Ça fait des votes de moins pour vous. Donc, est-ce que vous croyez que peut-être votre position pour la souveraineté peut vous nuire?
Non, au contraire, nous, on est le seul parti qui fait le lien entre souveraineté et justice sociale et bien commun. Pour nous autres, d'abord, la première chose qui est importante pour nous autres, c'est le bien commun, c'est cette justice sociale d'abord, et la souveraineté est un moyen pour y arriver, un moyen incontournable pour nous. Et là-dessus, on se démarque parce qu'on veut en même temps avoir une démarche qui soit inclusive, qui soit aussi consultative aussi. On veut avoir cette démarche-là populaire. Puis on se dit, ça doit aller au-delà des partis politiques.
Vous n'avez pas l'impression que si vous mettez la souveraineté de côté, vous allez pouvoir aller chercher les scores du NPD?
On la met pas de côté. Puis pour nous autres, c'est incontournable pour atteindre nos objectifs du bien commun. Là.
Puis vous savez qu'il y a beaucoup de membres du NPD qui sont membres de Québec solidaire. Il y a vraiment, tu sais, dans le fond, parce qu'ils se reconnaissent dans nos valeurs. Et on n'a pas, nous, on veut pas imposer à la population québécoise la souveraineté. On veut entrer en dialogue sur cette question-là. Et on est convaincu que s'il y a un dialogue, tu sais, dans le fond, avec la population, sur l'importance et les avantages qu'on va la réaliser. Alors, je vous dirais que notre approche est très différente de certains autres indépendantistes qui veulent imposer. Nous, ce qu'on veut, c'est dialoguer avec la population. D'ailleurs, on met de l'avant l'idée d'une assemblée constituante qui permettrait ce dialogue-là, finalement. Et on est convaincu, dans le fond, à l'heure du 21e siècle, dans le fond, qu'il faut être un pays souverain, mais sauf qu'on ne veut pas l'imposer à la population.
Le tramway a été mis sur la glace par plusieurs élus, et ça à tous les niveaux de gouvernement, notamment par le maire de Québec. Est-ce que c'est dommage pour vous que la Ville de Québec ait choisi d'y aller de l'avant sans tramway? Et comment on fait pour renverser la vapeur si les gens, au bout du compte, ne le veulent pas?
Ben, écoutez, les gens n'en veulent pas, ça, je pense. Il y a des gens qui n'en veulent pas. Il y a des personnes qui ont été élues démocratiquement, j'en conviens, et qui pensent que c'est pas une bonne idée parce qu'ils sont plus portés à mettre les fonds publics sur d'autres choses qui nous apparaît être moins visionnaires. Mais je pense que le tramway demeure un objectif qui doit être conservé. Et nous, on va le porter, on va continuer à le porter. Il y a des gens dans la société civile, d'ailleurs, qui continuent de porter ça. Pourquoi? Parce que c'est un projet... C'est pas juste le tramway, là. Il faut bien voir que quand on parle d'un tramway, c'est une conception du transport public, du transport en commun dans une agglomération comme Québec. Mais ça va aussi avec, bien sûr, une amélioration de tout le réseau d'autobus, de circuits d'autobus, parce qu'il y a beaucoup de lignes qui sont déficientes. On a fait une découverte le jour où on a mis en place le métrobus. C'est vrai, ça a apporté une grande amélioration. Nous, ce qu'on prétend, c'est qu'on va faire un bond considérable le jour où on va ramener le tramway à Québec, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le tramway, ça a déjà existé à Québec. Comme à Montréal aussi, ça a déjà existé. Ça existe encore à Toronto, ça existe encore à Vancouver. Pourquoi ça serait bon dans ces endroits-là, puis qu'ici, ça serait pas bon? Je pense que c'est pas juste une question de finance, c'est une question de vision. Et ça vaut la peine d'investir là-dedans. c'est une infrastructure, justement, au moment où la crise se pointe, c'est le type d'infrastructure qui peut nous permettre de passer au travers et d'avoir quelque chose de structurant pour le futur, pour l'avenir. On pense aussi au train de banlieue qui peut être lié à tout ce système de transport en commun pour relier la rive sud et peut-être éviter de continuer à construire des autoroutes qui coûtent énormément cher, y compris par la suite, et qui contribuent à faire de la pollution, à accélérer la pollution sur la planète. Alors moi, je pense qu'on ne lâchera pas là-dessus.
Donc, on est en plein cœur d'une crise financière. Donc, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des gens qui pensent que c'est peut-être le chant du cygne pour le système capitalisme? Alors, qu'est-ce que pense Québec solidaire là-dessus? Est-ce qu'il faut, comme dirait Sarkozy, reformuler le capitalisme ou il faut l'abolir?
Écoutez, je pense qu'il n'y a pas personne sur la planète qui pense qu'il faut abolir le capitalisme. Mais ce qui est clair, dans le fond, c'est que c'est l'échec d'un système capitaliste, dans le fond, tu sais, qui est laissé à lui-même. Tu sais, je pense qu'il y a moyen, effectivement, de laisser la place à l'économie de marché, mais ce qu'on voit, c'est qu'il faut l'encadrer. Je pense que c'est la fin, dans le fond, du laisser-faire, et c'est le retour en force, dans le fond, de l'intervention de l'État. Il faut que l'État fasse un arbitrage au niveau de l'économie. Il faut que l'État redistribue la richesse, et ça, je pense qu'on va le voir aux États-Unis avec Obama, puis on entend M. Sarkozy qui parle, effectivement, qu'il faut refonder, ou je ne sais pas trop, là, le capitaliste. Alors, je pense que dans ce sens-là, c'est la fin, effectivement, d'un type de capitaliste, dans le fond, qui nous a conduit à une crise financière, à des crises alimentaires, et qui nous a conduit aussi, tu sais, dans le fond, au renforcement du terrorisme dans le monde. Donc, j'espère que c'est la fin de tout ça.
Brièvement, vos engagements en matière de logement social?
Alors, nous, ce qu'on vise, c'est 50 000 logements sociaux qu'on veut mettre de l'avant pour nous autres. Puis, en même temps, c'est ça, c'est aussi, pour nous autres, c'est incontournable parce qu'actuellement, il y a trop de personnes qui ont à choisir entre se nourrir et se loger.
Et on peut aller avec peut-être une dernière question, Raphaël, François?
Non, ça
va de ton côté?
Pour toi, vraiment?
Alors, pour moi, en fait, je ferais peut-être une tournée avec vous au niveau des priorités dans votre secteur, dans votre circonscription. Alors, on va aller, réponse brève, bien entendu. On va commencer par Serge Roy, candidat dans Taschereau.
Ben, justement, dans Taschereau, la priorité, je vous dirais, c'est mettre l'accent sur le logement social, effectivement, parce qu'il y a un manque assez important à cet égard-là. Mais c'est bien évident qu'il y a un ensemble de problématiques qui se retrouvent au centre-ville par rapport à la pauvreté. Alors, c'est sûr que des propositions qui touchent l'aide sociale, des propositions qui touchent l'augmentation du salaire minimum, le logement social sont des morceaux dont on a besoin pour aider les gens, aussi par rapport à l'itinérance, soutenir les groupes qui interviennent auprès des itinérants, des itinérantes. S'attaquer à cette question-là, c'est aussi aller en direction de la justice sociale.
Martine Sansfaçon, candidate dans Charlebourg.
Nous autres, c'est pour la qualité de vie des familles, c'est sûr, pour un maintien d'un système public de santé avec rétablir justement nos consultations sans rendez-vous au niveau du CLSC, un environnement sain avec la protection de nos forêts urbaines, puis nous aussi pour la justice sociale avec le logement social et l'amélioration aussi des conditions de vie au niveau des personnes à l'aide sociale et du revenu, hausser le salaire minimum.
Et en terminant, Jean-Yves Desgagnés dans Jean Lesage.
Écoutez, alors, je pense que dans Jean Lesage, il faut augmenter l'espérance de vie des citoyens et des citoyennes, tu sais, de la circonscription de Jean Lesage. Il faut réduire la mortalité infantile. Pour ça, il faut lutter contre la pauvreté. Alors, je ne répéterai pas les mesures qui ont été dites tout à l'heure. Et il faut aussi fermer l'incinérateur, interdire le camionnage lourd sur le boulevard Henri Bourassa. Il faut aussi sauvegarder le centre Monseigneur Marcoux, qui est une institution importante et qui risque d'être, qui est menacée de fermeture. Il faut aussi renforcer, le secteur d'Estimoville. Oui, il faut effectivement relancer ce secteur-là, mais dans une perspective de développement durable. T'sais, nous, entre autres, on propose qu'il n'y ait pas seulement des édifices commerciaux, mais qu'il y ait aussi du logement, et pas seulement du logement de condos, mais aussi du logement social, donc de la mixité sociale dans le secteur d'Estimoville.
Et peut-être en terminant, un dernier tour de table, en une phrase, deux phrases, pourquoi on voterait pour Québec solidaire?
Simplement parce qu'on veut changer des choses en profondeur dans la société, on veut avoir une réelle démocratie, et je pense que Québec solidaire est la voie dans ce sens-là.
On est la voie à l'avenir, la seule alternative actuellement, et je voudrais dire aussi qu'il y a une belle rencontre le 1er décembre pour dénoncer l'exploitation sexuelle des femmes qui va avoir lieu au plan Nagua ici sur la première avenue au 990. Alors j'invite toutes les citoyens et citoyennes à 19h pour dénoncer cette violence faite aux femmes.
Alors, nous sommes des Gaulois. Alors, on veut effectivement changer le monde. On prône le bien commun. Alors, on a besoin que vous nous appuyiez, hein, donc, le 8 décembre. Alors, voter pour Québec solidaire, c'est de nous dire, continuez, lâchez pas. Et aussi, ça nous donne des ressources financières pour continuer le travail, tu sais, et faire avancer nos idées.
Ah ben, Jean-Yves Dégagné, donc, candidat dans Jean-Lesage, Martine Sansfaçon, candidate dans Charlebourg, Serge Roy, candidat dans Taschereau, tous pour Québec solidaire. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin.
Bonne journée. Merci. Bonne journée.
Bonjour. Alors, ben, voilà, François G. Couillard, nous, on se revoit demain. Demain, c'est le tour du gouvernement sortant.
Ben oui, et non le moindre.
Exactement. Alors, on discute.
Parti libéral du Québec, on va avoir beaucoup de questions.
Effectivement, beaucoup de questions. On verra justement quel est leur bilan. On n'en a pas nécessairement suffisamment parlé en campagne, alors on aura l'occasion d'en parler avec eux demain. Alors, François G. Couillard, merci beaucoup.
Merci à toi, Raymond.
Et à demain. Alors, ben, nous, là-dessus, restez avec nous, on s'en va en musique. Au retour, on jette un petit coup d'œil aux actualités locales. En musique, on écoute Alexandre Béliard, la star du Rodéo.